Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Ah bah attendez, alors c'est quoi c'est... Mais non, mais là je suis pas habitué, c'est pas Tom. Tom, lui, il veut me faire une espèce de doigté.
Bon, on m'a dit, on claque pas les doigts, d'honneur, on limite entre... la lumière rouge.
Et alors, vous... il lui fait un doigt d'honneur entre deux bouchées de cassoulet.
Ah, voilà, que... Regardez là, hey, ça sent pas la bouffe.
Et là, vous avez une espèce de main virevoltante, ou je sais pas trop si on en direct ou pas.
Là, c'est pour ça que
juste avant, que vous ne disiez rien, j'ai dit Roger Fringant.
Oui, mais bon, le carton rouge, c'était bien quand même. Jean-Loup Grosso. Et.
J'ai déjà dit, moi, Roger.
Ah bah tant pis pour vous, sans oublier notre brave Tom. Super. Lui au moins il est là.
Eh hey, Bagrovitch, oui, bah,
voilà. Il est là en chair et en os. Votre petit, donc ce soir, pas de cassoulet froid à la radio, c'est direct poney. Et il
on
dit
sait pas.
Que
on sait
nous...
pas.
Alors on a reçu un dernier mail. Je vais au poney, je vous emmerde.
Non, on sait
ça,
pas.
Ça c'est le dernier. Moi,
je me rappelle de ça. J'ai
non,
vu
non,
ça.
Normalement, je sais qu'il y a un problème avec le poker, mais
une dette. Non, voilà. Il a perdu tous ses sous, je crois, au poker la semaine dernière. Alors, il avait un truc à refaire.
Bah, oui, je vais nous inviter qu'ils demandent de qui on parle. Normalement, on a deux techniciens à chacun, hein, qui nous amène en fauteuil, et c'est bien pratique. Il y a chacun le sien, et on a pris une certaine habitude, sauf que le mien, je suis obligé de marcher.
Voyou, voilà ce que vous avez fait, vous l'avez gâté, pourri, et c'est un voyou. Allez, un petit Dix, et après on vous parle de l'émission.
Once again, she won't.
Et voilà une émission bourrée comme tous les mercredis avec Roger. Ah, ah, je vais pas vous faire la blague parce que ça m'énerve là.
C'est quoi la blague?
Qu'est-ce que vous avez été faire
à la SPR?
Enfin bref, on en parlera hors antenne là.
Ah oui, la blague, j'ai été chercher mon verre.
Voilà, bah, c'est bien, je préfère.
Voilà. Et donc nous recevons ce soir Christophe Blin, bonsoir.
Bonsoir.
Et Anne-Gaëlle Delru.
Bonsoir.
Bonsoir. Là, je l'ai bien prononcé. Je sais pas pourquoi. J'ai un ami qui s'appelle Déru. Donc, du coup, pouf, sans doute, voilà. Vous êtes tous les deux ici ce soir pour nous parler de l'ASPR pour Association de sauvegarde du paysage rural pour la commune du Perthe. C'est ça? Si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Yes, parce que dans la commune du Perthe, alors on résume l'histoire. J'ai appris grâce à ma chérie, d'ailleurs que je remercie bien bas ce soir, grâce à qui effectivement nous avons une émission ce soir, et c'est grâce à elle. Donc je la remercie bien ce soir parce qu'en plus je suis sûr qu'elle écoute le début au moins. Et donc du coup, c'est grâce à elle que j'ai entendu parler de votre asso. En clair, la commune du Perthe, qu'on croirait être, je sais pas, une commune champêtre, on va dire. D'ailleurs avec des paysans bio. Des paysans qui ont fait l'effort de se mettre au bio, on sait qu'on les aide pas vraiment, hein. On n'a pas vraiment globalement une politique en faveur de l'alternatif, on fait quand même, on favorise d'habitude l'intensif. Bref, des gens qui se sont fait chier à développer toute une zone rurale, intéressante et puis durable justement. Eh bien voilà que vous rentrez de plein pied dans le 21e siècle avec une usine Seveso.
Mais plus de temps, hein.
Je résume un peu, non?
Oui. Alors donc je me présente déjà. Je suis Christophe Blin. Je suis producteur de safran au Perthe. Donc le Perthe, pour vous situer, ça se situe à la limite entre la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, ou entre Vitré et Laval.
C'est ce que je leur ai dit. Pas loin de la douane de la Gravelle.
Pas très loin. On est à 4 km de la Gravelle environ.
Voilà. Et donc du coup, dans cette commune, voilà que. Mais alors, on reviendra là-dessus plus en détail. On verra si ça vous est tombé dessus d'un coup, ou s'il n'y avait pas déjà des antécédents, c'est-à-dire une boîte qui veut s'agrandir. On reviendra dans le détail. Mais je crois aussi que votre propos, et c'est en cela que ça va être intéressant, il est aussi de voir comment on peut se passer de ce genre de d'ovni industriels, pouf, qui vont débarquer tels des verrues dans nos campagnes, et qu'on pourrait peut-être faire autrement pour développer le rural.
Tout à fait.
Plus.
Non, mais ça va m'intéresser, moi qui suis un urbain 100%, je vais peut-être apprendre des choses.
Comme ça, on viendra l'installer au pied de chez vous, l'usine Seveso, dont personne ne veut.
Oh, ça me dérange pas trop. Hein,
vous savez,
peut-être qu'elle est jolie, quand le coucher de soleil se couche du haut de mon 14e étage. Allez, un petit disque et après on embraye parce que.
Sur la semaine des grignons.
Give it and forget it. I'm buying Jack. c'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, mais attends, tu me laisses parler, mais tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me virer par la violence, oh, c'est ça vous couperait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Ce soir, la rubrique à Roger pour changer.
Bah oui, c'est bizarre que mais ça n'a pas encore... été racolé. Le...
Ah, mais il a des papiers, lui, vous
oui.
en avez toujours pas.
Bah oui, bah, il s'en fout. Moi, j'ai pas une imprimante. J'ai pas une imprimante du 21e siècle.
SOS Ordi 35, c'est ça.
Ah là là, merci SOS Ordi 35.
Moi,
encore une fois,
j'ai un cerveau.
Super
là, pour tout retenir. Oui.
Si je vous dis Vincent Payon,
il a coulé, c'est ça.
Non, Vincent Payon, il se présente au présidentiel, enfin au primaire.
C'est ce que je viens de dire. Il va couler.
Moi, derrière tout ça, moi, ce qui me stupéfie, c'est comment ce genre de petit bonhomme, qui a été vaguement ministre de l'Éducation nationale, qui a pondu sa petite crotte, hein, chaque ministre doit pondre sa réforme, il a fait sa réforme des rythmes, Najat a fait sa réforme de, comment, des collèges, quand le camarade, le prof, enfin, le ministre, comment, qui s'occupera des profs sous Fillon ou Le Pen, alors, il pondra également sa petite crotte, bref, il a pondu sa crotte à l'Éducation nationale et il est parti se réfugier en Europe parce que il était un peu carbonisé. Bref, le voilà qui revient et qui dit « Je sens qu'on a besoin de moi ». Vous imaginez les égos de ces personnages qui disent que la France a besoin d'eux. Je sais pas à quoi ils tournent.
Ouais, mais c'est bizarre parce que normalement on aurait dû ouvrir l'émission sur le fameux séisme politique qui m'a fait assez rire. Vous savez, l'intervention en direct jeudi de François Hollande qui annonçait le fait qu'il se représente...
Son repli.
Ouais, mais bon, moi, ce qui était marrant, c'est que dès les 3 ou 4 premières paroles, vu sa tête, vu le ton de sa voix, c'était clair qu'il allait pas se représenter. Et je crois qu'il est assez malin quelque part, plutôt que de subir une humiliation, parce que le pauvre, il en a pris quand même plein sa gueule. Et je sais pas ce qu'il vaut, le François Hollande, mais je pense pas que ce soit un enculé de première prêt à voler les pauvres pour donner aux riches.
C'est pas du Fillon. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que depuis qu'il a annoncé sa démission, pas sa démission, mais qu'il se représenterait pas, il a gagné 13 points d'opinion positive. Oui. Et c'est qui le place à 29% d'opinion favorable, bref, son taux le plus haut depuis qu'il a été élu.
Et c'est ça où il est génial, parce que du coup, il va sortir à la tête haute
histoire. Plus drôle encore. Bon, alors c'est vrai qu'on peut, quand on dit 30% d'opinion positive, ça fait quand même 70% d'opinion négative, hein, quand même. Faut quand même pas l'oublier.
Oui, mais avec 4%, non, c'était
mais,
pas ça le dernier chiffre.
L'éclaircie est générale pour la présidence. 30% des personnes interrogées plus 8% pensent qu'il est proche des préoccupations des Français. Et selon une enquête à Harris Interactive, le président de la République a gagné encore 4 points de confiance en proie des Français. Comment dirais-je, 22% de confiance, il n'avait jamais eu ça. Et le plus drôle, c'est que depuis que Valls a dit qu'il se présentait, alors que Valls était régulièrement devant Hollande, et ben depuis qu'il a dit qu'il se présentait, vous savez ce qu'il fait Valls? Il baisse.
Ça vous fait rire. J'ai l'impression que vous jubilez déjà de la victoire quasiment préannoncée.
Alors justement, François Fillon. Alors j'ai vraiment pas de quoi me réjouir parce que François Fillon.
Pourtant vous seriez.
Le problème c'est que je vais parler de quelqu'un dont plus personne ne se rappelle. Alors peut-être Monsieur Blin, peut-être, je ne sais pas. Si je vous dis Alain Madelin. Ancien maire de Redon.
De Redon, si. En plus, j'ai été à l'école à Redon, donc oui, j'ai connu Alain Madelin.
D'accord. Et c'était quand même un peu un bonhomme à droite de Dieu, un ancien du groupe Occident. Il a joué de la batte de baseball contre les Rouges dans les années 68-70. Bref, un monsieur qui a été évincé même du gouvernement Chirac en 95 parce que il essayait de promouvoir des mesures trop libérales aux yeux de Chirac. Eh ben, ce monsieur-là vient de déclarer qu'après avoir étudié le programme de Fillon, il considérait que Fillon c'était un peu Robin des Bois à l'envers. Il prenait aux pauvres pour donner aux riches. Si Alain Madelin pense qu'effectivement le programme de Fillon est ultra-libéral, les amis, on a de quoi pleurer. Et donc, du coup, j'en viens à... Vous savez, c'est le billard, la politique, c'est un peu comme des boules de billard. Du coup, vous êtes prolo. Vous bossez 35 heures, on vous dit que vous allez bosser 39 heures, 4 heures dans le cul et que vous ne serez pas payé, Lulu. Que vous allez travailler jusqu'à 65 ans, quand Marine Le Pen vous dit que vous allez travailler jusqu'à 60 ans, que le SMIC va être augmenté, presque, on dirait presque le le copier-coller du programme du PC en 81. Et je me dis que du coup, un duel Fillon-Le Pen, c'est pas du tout gagné pour Fillon. Et puis quelque part, eh ben, il l'aura peut-être bien mérité.
Ouais,
et
puis si les Français connaissent un petit peu plus la Constitution aussi, en fait, le pouvoir, ça joue, c'est pas les présidentielles, hein, c'est aux législatives. Et comme d'habitude, bah, la plupart des Français ne vont pas se déplacer. On peut très bien avoir une Marine Le Pen présidente et avoir une assemblée de gauche. C'est oui. De la politique fiction, là, le...
Il faut que vous arrêtiez de fumer la moquette. Moi, je dis qu'il faut que vous arrêtiez de fumer la moquette.
Par contre, quelque chose qui est assez symptomatique, vous savez, quand Fillon a gagné ou a passé au deuxième tour des fameuses primaires des Républicains, tout le monde en parlait pendant une semaine. Hollande qui dit, voilà, je ne me représente pas, les gens en parlotent le lendemain, et deux jours après, t'as terminé, assimilé, comme si ça avait jamais existé quelque part. Enfin, il paraît qu'au niveau international, il est vachement reconnu, et cet homme-là va pouvoir passer une retraite pépère en étant invité à droite à gauche pour
et
faire des conférences.
C'est pas beau, ça.
Comme Sarkozy, je pense pas que c'est ça qui rapporte. C'est plus ses conférences. Bah
justement, les profs, ils ont pas besoin de, ils ont pas les moyens, justement, d'un président en retraite. Sauf que, va falloir qu'ils m'expliquent un petit peu leur cohérence. C'est-à-dire que quand j'entends sur, comme en France Info, vous savez qu'il y a de la pub maintenant sur France Info, j'entends une pub pour Acadomia. Et Acadomia, je résume la pub, votre gosse est naze à l'école, c'est aussi parce que le système ne marche pas, mais chez Acadomia, ça marchera beaucoup mieux, et vous aurez des profs de l'éducation nationale.
Alors, je vous rejoins,
ma chérie me faisait remarquer.
Alors, si les profs sont nuls.
Bah oui, je comprends pas bien, me disait ma chérie, elle me dit, si effectivement le système est pourri avec des profs de l'éducation nationale, en quoi des mercenaires de l'éducation nationale viendraient davantage sortir votre gosse de la mouise?
Bah, ce qui change peut-être, ou ce qui la donne, c'est qu'au lieu d'avoir 47 ou 48 élèves, ils en ont qu'un.
Peut-être.
Tout simplement, et ça marche mieux, mais voilà. Voilà. Un petit disque.
Allez, un petit disque.
Allez, c'est le dernier, on va se quitter, c'est la fin de l'année. Le dernier. Bah oui, parce que j'ai une dédicace.
Ah
ouais,
ben
ouais. Eh bah oui.
Pour le groupe.
Voilà, je croyais que l'entrée était, bon voilà, Jerry Bright, en The Stalker. C'est le dernier morceau, je vous assure.
No one there, I feel I'm going tripping.
Voilà le Jerry Bright of the Stalker de la semaine. Et puis après, c'est terminé. Vous pouvez l'acheter normalement au Melody Maker. Excellent album, dansant, swingant.
Maker.
Ouais, bah, attends, faut vous y aller plus
souvent. C'est bien, c'est bien. Alors, allez, une petite question de... Allez, on dit oui. Alors, il y a une primaire dont on n'a quand même pas parlé. C'est la primaire des Verts. Et la primaire des Verts a permis à monsieur Yannick Jadot de l'emporter.
Attendez,
et je trouve que, effectivement... on a tort de, alors.
Les Verts, c'est les écolos, hein, c'est ouais. ça. Voilà, je crois que c'était, les,
ouais, non, mais faut, les verts, clair, les Et Yannick Jadot, ben, au moins, il fait parler de lui, à travers comment il a repris aussi un article du Canard Enchaîné paru la semaine dernière, qui rappelle que, comment François Fillon, lorsqu'il était en semi-retraite, dans l'opposition, il a créé une petite boîte, hein, une petite boîte, dont on sait pas trop pour qui elle a travaillé, sauf qu'elle a brassé énormément de pognon, et que du coup, Yannick Jadot, au nom de, de la transparence, hein, cher à monsieur François Fillon, ça serait peut-être quand même pas mal qu'il me dise, effectivement, avec qui il a bossé, parce que quand même François Fillon, c'est un bonhomme qui crache pas sur Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, qui est quand même directement ou indirectement responsable du chaos syrien, qui a causé quand même la mort de plus de 300 000 personnes. Il nous dit également qu'il faut se réconcilier avec Vladimir Poutine, qui a envahi la Crimée sans coup fait rire, qui fait chier l'Ukraine. Je sais pas, moi, effectivement, quand on voit que Fillon et Marine Le Pen, c'est pareil, hein, ce sont des poutinophiles, c'est marrant. On va peut-être tous s'allier avec Trump pour aller faire la guerre au Shintok. Allez savoir.
C'est pas pareil, parce que Marine Le Pen, c'est quand même le SMIC à 3000 euros et la retraite à 55
ans. Elle
n'a
pas dit 3000 euros, mais elle a 2005. Pas dit qu'on bosserait 4 heures gratuites, vous imaginez?
Et en fait, c'est pas, là où ils sont subtils aussi, c'est pas passer de 35 à 39 heures, c'est supprimer les RTT. Vous allez me dire, c'est la même chose, mais psychologiquement, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui. Allez, une petite dernière aussi pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. En fait, on a un mode de scrutin, on en discutait tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, oui, on a des primaires, somme toute la primaire n'est pas forcément, c'est peut-être un moindre mal, puis ça permet à pas mal de gens de s'exprimer, sauf que, quand on voit ce qui sort du panier de la primaire, on a eu, par exemple, François Hollande face à Martine Aubry, et bon, par contre, effectivement, même si c'est un point de vue personnel, on peut penser que Martine Aubry les eut eu plus
de consistance.
Avec plus de consistance que François Hollande, et que ça serait pas passé de la même manière. Et du coup, je suis retombé sur un vieil article paru dans l'Express, et ça nous rajeunit pas, mais qui parle d'un autre système de scrutin. C'est-à-dire que, au lieu de voter pour une personne, on note les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On note les gens, et du coup, on leur met une note de, s'il y a 10 candidats, on leur met une note de 1 à 10.
Donc s'il est beau, on met 18.
Non. On les note, c'est-à-dire, il y en a, par exemple, si vous avez, là, à l'époque, le panel allait de Martine Aubry à Marine Le Pen. Et lorsque, comment dirais-je, on était avec un scrutin majoritaire, eh bien, Marine, comme un scrutin classique comme celui qu'on pratique aujourd'hui, Marine Le Pen arrivait en deuxième position. Face à Martine Aubry à l'époque, qui était en tête, suivi par Nicolas Sarkozy. Ça, c'était avant les présidentielles de 2012. Et avec le système majoritaire, c'est-à-dire non pas majoritaire en termes de points, c'est-à-dire de 1 à 10, là, on a la maire Martine Aubry qui arrive en première, suivi de Jean-Louis Bourlou à l'époque, c'est vous dire Dominique de Villepin, François Bayrou, Eva Joly, Nicolas Sarkozy n'arrivait qu'en 6e position. Vous voyez le boulot ? En fait, plutôt que d'avoir à voter pour une personne, le but du jeu, ça serait sur un bulletin, on mettrait une note de 1 à 10 et les résultats pourraient en être complètement changés.
Dans un registre, là j'ai passé du coq à l'âne, les crétins de la semaine, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû voir les fameuses personnes qui étaient dans une voiture, qui s'arrêtent à un feu rouge et la BAC qui était à côté n'aperçoit pas les conducteurs à cause de la fumée, donc forcément contrôle et il ne fumait pas que du tabac, quoi. En plus, je crois qu'il n'avait pas de permis, le mec qui conduisait
Une voiture volée avec, et ils étaient bronzés.
Ça, c'est l'article le précise.
ne le dis pas.
Non, mais le Georgien n'est pas forcément bronzé, non.
D'accord.
Plus.
Vous dites que c'est des Georgiens, vous?
Je sais pas, chacun son... vous savez, il y a...
Est-ce que c'est marqué dans l'article que c'est des Georgiens?
Il y a une fête foraine à proximité.
Qu'on entend hurler comme ça régulièrement. Oui. Ça me faisait peur, je me demandais.
Ceux qui menaçaient, on en parlait justement en arrivant avec cette fameuse fête foraine. Alors, c'était quoi, il y a 3 ou 4 ans, quand je ne sais plus quel passionné, 4 ou 5, artisan... passionné avait voulu exposer ses manèges en bois, etc., et que les artisans forains, hein, c'est pas les manouches, c'est pas la même chose, avaient été menacés de foutre le feu à ses expositions. Il a dû fermer. La mairie a fait la gueule. Je crois que l'année suivante, ils sont même pas venus à l'inauguration, et tout a repris son cours. Et vous qui vous peignez de cette place du général de Gaulle que vous trouvez minérale, pourquoi il n'y a pas un pet d'arbre à votre avis?
Pour les vous croyez que c'est à cause d'eux?
Bah évidemment, vous mettez un arbre en plein milieu, et ben les pour trois semaines dans l'année, et ben vous savez qu'ils vont mettre leur manège. Ils auraient dû le mettre au parc des expos, hein, comme ça on était pépère, on n'entendait pas les cris, et puis voilà. J'aime pas trop les artisans forains. Je sais, j'aurais pas dû dire ça à ma voiture, ils vont me la voler.
On s'écoute un petit peu. Sa programmation à qui? C'est à qui? C'est à moi. Alors
à votre projet.
Si c'est la mienne, il faut que je fasse une petite dédicace. Ouais. Je fais une petite dédicace pour Sophie, comment qui est une quand même une de nos plus vieilles auditrices de Canal B, ses rapports aussi aux élections aux États-Unis et à l'article dont je vous avais parlé la semaine dernière, à savoir que la Californie ferait peut-être sécession. En tout cas, il y a un mouvement sécessionniste californien qui se développe à l'heure actuelle aux États-Unis, et j'en avais parlé la semaine dernière, et ce n'est qu'une semaine plus tard, par le biais, comment dirais-je, de cette demande de dédicace, qu'effectivement j'ai fait le lien avec Californien Hubert Alès, oui, des Dead Kennedys, un classique.
Est-ce que c'est possible? Enfin, on en parlera après.
Eh, cinquième puissance de la planète.
Oui, ça, mais par contre, c'est viable. Mais est-ce que c'est possible qu'ils se séparent?
Après une bonne guerre.
Allez, c'est parti.
Y en a marre. ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, saloperie de nom de dieu de bordel à cul, chérie de putain d'enculé de mes deux. Chronique coup de gueule.
Moi je dis, si on ne gueule pas, ça me fait toujours penser à la chanson de Boris Vian, vous savez, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé, vous savez, il dit, on finit toujours par obtenir des aménagements, évidemment, on va parler d'aménagement du territoire tout à l'heure, et comment on finit par obtenir des aménagements si on gueule. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous avez accepté de venir ce soir, Christophe et Anne-Gaëlle, donc Christophe Blin et Anne-Gaëlle Delru.
Oui.
Qui sont respectivement, on va dire, vous êtes là ce soir représentants de l'ASPR, l'association de sauvegarde pour le paysage rural. Alors je résume, la commune du Pertre,
oui.
C'est ça. Hein. Mm-hmm. C'est pas grave, j'ai toujours envie de dire le Tertre, le Pertre,
la commune
du Pertre.
Et qui se situe
pas loin de la Gravelle. Vous savez là où il y a la douane
là,
qui vous dit de vous arrêter
de la
quand
douane,
vous avez les cheveux longs. Voilà, vous croyez sur la route et puis non. Et voilà, donc vous êtes pas loin de la Gravelle. Vous êtes à l'est de Rennes. Vous êtes dans une commune qu'on peut qualifier de rurale. Du coup, normalement, c'est un environnement rural. Et voilà, Tipa, que vous tombe sur le coin du nez le projet de création d'une usine type Seveso. Alors je résume, une usine type Seveso. Ça fait référence à l'usine Seveso en Italie qui avait explosé fin des années 70, début des années 80, un truc comme ça. Hein. Une usine qui fabriquait de la dioxine.
Oui, mais c'est vieux ça.
Ouais,
c'est
sauf que les fûts de dioxine, on avait retrouvé à Lyon dans une cave. Il y a eu tout un trafic de merde. Ça avait été abominable. Ouais, la dioxine, ça avait continué longtemps, le trafic de dioxine pourri. Bref, suite à cette catastrophe de Seveso, eh bien, on avait établi une liste des entreprises et des usines type dangereuses qu'on avait classées. Seveso 1, Seveso 2, Seveso 3. Suivant la gravité. Et par exemple, l'usine qui avait explosé suite à Toulouse, à AZF, effectivement, était une usine classée Seveso, d'où le problème, effectivement, de la contingence, on va dire, ou la proximité de bâtiments réservés à l'habitation des gens et d'usines type Seveso. Là, c'est pas de bâtiments d'habitation dont on parle, c'est d'un environnement rural. Et pourtant, effectivement, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez dans votre commune. Vous êtes tous les deux originaires du Pertre.
Moi, je suis originaire du Pertre depuis 19 ans. Avant, j'étais en Loire-Atlantique.
C'est pas pareil, hein. C'est pas la même région.
Mais j'étais aussi dans un milieu rural.
Donc, ça rapproche. D'accord. Et vous Anne-Gaëlle ?
En fait, avec mon mari, on a fait pas mal de régions de France, mais on est originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et depuis 2 ans, on a acheté cette maison, on l'a rénovée et on a vraiment fait le choix de vivre dans ce cadre-là, en fait.
Mm-hmm. Et tous les deux, vous avez découvert qu'au bout de votre jardin, vous alliez avoir une usine type Seveso 2 ou elle est un peu plus loin ?
Alors, pour donner un petit peu l'historique de ce projet, donc ça s'est passé au mois de juin 2016, donc c'est assez récent.
C'est
tout récent.
Ah oui, la réactivité des grignots quand même.
L'agriculteur qui est l'exploitant de ce terrain a reçu la visite de l'adjoint du maire, où il a appris que son terrain, la mairie, avait souhaité l'acheter. Donc ça commence là. Ensuite, il avait le droit, bien sûr, de préempter, c'est ce que la SAFER lui a proposé, mais à des tarifs assez exorbitants pour lui, puisque c'était de l'ordre de 17 500 euros l'hectare.
Ah,
ce qu'il faut savoir...
Bonne affaire, en fait.
La préemption, rappelez-moi le droit de préemption, la mairie peut préempter. C'est-à-dire que si lui décide de vendre son terrain, ça peut arriver à n'importe qui, par exemple, je vends ma maison, la mairie a des projets immobiliers, elle achète ma maison au cours plancher... On va dire, la mairie est pas forcément généreuse, elle a une certaine latitude pour fixer le prix, c'est elle qui fixe le prix, hein, si j'ai bien compris, dans un cadre, mais bon, elle est pas forcée d'être généreuse.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce terrain, donc au niveau du cadre, ce terrain-là était classé en 2AU, c'est-à-dire que c'est un terrain à l'origine non constructible, c'est ça qui veut dire 2AU, donc un terrain agricole. Donc le terrain agricole par chez nous, c'est de l'ordre de entre 4 et 6 000 euros l'hectare.
Ah ouais, et là vous parlez de 17 000 euros.
Wow. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, vu la crise agricole, l'exploitant de ce terrain-là n'a pas pu racheter le terrain à ce tarif-là.
On lui propose 17 000 euros à l'hectare.
17 500 euros l'hectare.
Ouais. Et il était locataire ou c'était lui comme propriétaire?
Alors, il était locataire du terrain. Hein. Donc voilà.
Et ce genre d'offre.
Et le propriétaire, c'est qui?
Alors, le propriétaire, c'est le frère du maire.
Eh bah, ah,
c'est ça que je voulais poser la question là. Donc, le propriétaire, c'est le frère du maire. D'accord? Je note.
Oui. Lui, et lui, c'est justice, c'est le beau-frère de la belle-mère du maire.
Oh. Et non, l'oncle du maire. Vous allez vite en besogne. Je vous vois venir, Jean-Loup, avec vos gros sabots de conflit d'intérêts. C'est pas ce que veulent dire nos invités.
On n'a rien dit de tel, mais voilà. Voilà. Faut savoir que le terrain. Voilà, faut savoir que le terrain appartenait au frère du maire.
Et que pour un terrain qui valait entre 4 et 6 000 euros, là, la mairie va l'acheter au frère du maire. 17 500 euros l'hectare.
C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Vous voyez que les gens sont généreux. On a l'impression que
mon frangin,
vous étiez là. Oui, que la mairie se polie les propriétaires avec ce droit de préemption en payant le prix plancher. Bah, c'est là-bas la preuve que non. Là, on peut s'arranger. Oh là
ouais,
là.
C'est quand même plutôt une putain de bonne nouvelle, non?
Et à titre indicatif, il y a combien d'habitants justement dans le...
Au Perthes. Ouais.
À peu près 1500.
Voilà, à peu près 1500.
1500, oui, c'est quand même pas non
1500.
Plus...
1500.
À peu près, ouais.
Ah, j'avais noté 6000, moi.
Une petite commune.
Alors, revenons-en, on va passer, parce qu'après on va nous accuser d'orienter dans notre enquête, bon Jean-Loup. Donc du coup, on a le frère du maire à qui il arrive une bonne nouvelle, il reçoit une nouvelle de la mairie, comme quoi la mairie veut acheter son terrain dont il ne gagnait pas grand-chose avec le père Dubois qui l'exploitait, et on lui propose de l'acheter 17 500 euros à l'hectare quand ça vaut entre 4 et 6 000. Donc du coup, il dit
« Je vends !»
Bingo.
Bien sûr.
Voilà. Donc,
il
a vendu quand alors?
Je signe, pardon.
Alors, ça a été vendu le 8 juillet.
Mmh.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 9 juillet, le terrain n'était plus constructible, c'est-à-dire que le
il n'était plus agricole.
C'était plus possible qu'il redevienne en 1AUA, il allait repasser en terrain agricole. Donc il n'y avait plus de possibilité de construire une zone industrielle.
D'accord. À partir du 9 juillet.
À partir du 9 juillet.
Ça lui est tombé sur le coin du nez au maire, du coup, cette plaisanterie-là. C'était pas ce qu'il avait vraiment prévu, si je comprends bien.
Alors, ce qui a fait que c'est plutôt à cause de ça que le maire a accéléré le mouvement et qui a laissé peu de temps de réflexion, surtout à l'exploitant agricole.
Pour racheter le terrain. Pour racheter le terrain. Il pouvait pas. Bien sûr.
Alors déjà, il y avait le tarif qui était élevé et le délai qui était très court.
Bah alors du coup, je comprends pas où est le problème. Parce que si partir du 9 juillet, la terre n'est plus constructible, où en est-on justement? Parce que j'imagine, c'est sous-jacent, ce terrain était prévu pour la zone industrielle, pour l'usine type Céveso, c'est bien ça?
Oui.
Mais alors du coup, comment il n'y a plus de soucis alors? Sauf que...
Alors, si, il y a toujours des soucis, donc non... Un, on ne souhaite pas qu'une usine Céveso s'implante sur ce terrain-là pour plusieurs raisons. Alors déjà, on est dans un milieu qui est aujourd'hui assez protégé, c'est-à-dire que c'est un bocage où nous, on est venu habiter il y a, donc comme je disais tout à l'heure, il y a 19 ans. Donc on ne souhaite pas aujourd'hui voir une usine Céveso s'implanter juste à côté de chez nous. Nous, c'est à 350 mètres de notre safranière. Donc... En agriculture biologique.
Alors, c'est là où intervient effectivement ce que vous disiez tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de rappeler, c'est qu'effectivement, vous êtes, on dit safranier.
Oui, moi, justement, ça m'a... Oui.
Alors oui, on dit safranier.
Alors, donc, qu'est-ce que vous savez du safran, Jean-Loup?
Je crois que le safran, ça vaut aussi cher que l'or. Est-ce que c'est vrai?
C'est pas loin.
Alors, on produit peu. Vous ne produisez pas des tonnes, je pense pas.
Alors, déjà, on en produit peu. Le safran, c'est de l'or de 30 000 euros le kilo. Mais pour produire un kilo de safran, il faut environ 150 000 fleurs. Donc, c'est un travail important. Nous, on produit sur notre propriété 280 grammes environ. Vous voyez un petit peu.
Ah, une petite question. J'ai l'impression que le safran, c'était le sud de la France. Ça pousse ici?
Alors, ça pousse dans toutes les régions en France. En Bretagne, on est environ 13 producteurs de safran. Hein, mais ça, c'est vrai qu'on en a plus dans les pays chauds, type l'Iran,
plus facile.
Le Maroc, l'Espagne, en Inde, qu'en France. En France, on produit 200-300 kilos. Hein, donc c'est très peu par rapport à la production mondiale.
Pourquoi avoir fait ce choix-là de produire du safran?
Moi, j'ai une petite question idiote. C'est quoi le safran? Tout le monde le connaît de nom, mais pas forcément à quoi ça sert et comment il se cultive.
Alors le safran, c'est une épice. Hein. C'est une épice que l'on utilise en cuisine parce que c'est un exhausteur de goût. Déjà.
Un peu comme le sel.
Comme le sel. Mmh. C'est sa première propriété, donc c'est un exhausteur de goût. Ça a été utilisé aussi
comme colorant
pour aussi teinter les tissus. Hein, on a vu souvent les moines bouddhistes avec des tenues oranges. Et ben ça c'était à base de safran. Aujourd'hui on l'utilise plus pour ça, hein, parce que vu le coût. Ça a été aussi beaucoup utilisé au point de vue médicinal, parce qu'on lui donne beaucoup de propriétés au safran, que ce soit pour le stress, pour la digestion, pour les dents des bébés.
Et sûrement des vertus aphrodisiaques.
Aussi.
Ah ben voilà, c'est pour ça que je connais ce nom.
C'est plus à la digestion pour vous, mais allez savoir pourquoi.
Et donc, alors oui, ce fameux
mais
safran.
Pourquoi avoir fait justement si alors, pourquoi avoir question, fait vous m'avez chuté.
Bah oui, mais j'ai pas fini.
Si.
Je reviendrai sur
pourquoi le safran.
Les questions techniques après.
Alors, l'avantage c'est que nous, on avait une propriété de 2 hectares. Donc, on pouvait pas non plus se mettre à faire du lait ou d'autres cultures céréalières. Ça, c'était pas possible sur une surface de 2 hectares. Ensuite, sur le Pertre, donc une partie du Pertre, nous on avait une terre assez riche, une terre profonde et une terre assez drainante. Et pour pouvoir planter la bulbe n'aime pas l'excès d'eau. Donc on avait un terrain qui s'y prêtait déjà. Donc c'est pour ça aussi. Alors on s'y est pas lancé hein, du jour au lendemain, mais donc la bulbe, donc on a tendance à dire que c'est dans le sud, mais c'est un petit peu partout en France dans la mesure où on a la terre qui s'y prête. Donc ça c'est la première chose. Donc ensuite, on était passionné par cette épice hein, que l'on connaît peu en Bretagne, mais qui est beaucoup utilisée en cuisine dans d'autres régions, Maroc, l'Espagne, surtout dans les pays du sud hein, qui l'utilisent beaucoup en cuisine. Et voilà, donc commence à démarrer en 2014. Et on s'est lancé. On a commencé par quelques bulbes et puis tout doucement on a vu que ça fonctionnait. Et aujourd'hui nous avons un peu plus de 50 000 bulbes de plantés sur notre terrain.
C'est viable, comment dirais-je ? Votre exploitation est viable ? Vous travaillez avec votre
Alors je travaille avec ma femme. Pour le moment, non. On n'arrive pas à en vivre, donc on est obligé d'avoir un travail à côté.
Et pourtant, vous parlez de 300 kilos...
30 000 euros le kilo.
Non, mais de 300 kilos produits en France, c'est ça ?
De 200 à 300 kilos voilà, produits en France.
C'est rien. Si j'ai bien compris, le safran, c'est le pistil d'une...
Alors, comment fonctionne, voilà. Donc, c'est une fleur qui sort à partir du début octobre, hein, cette fleur. Donc, c'est une fleur très éphémère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'accueille le matin et ensuite on fait ce qu'on appelle l'émondage. L'émondage, ça consiste à retirer le pistil de la fleur. Et seul le pistil, la partie rouge de la fleur est du safran. Donc ensuite, il faut le sécher, donc on le déshydrate, puisque pour que le safran puisse se conserver, il faut environ qu'il perde 80% d'humidité.
Déjà que c'est pas gros.
C'est pour ça qu'il faut énormément de temps pour produire un kilo de safran. Du temps et de la main d'œuvre. Et c'est pour ça aussi qu'en France, on a produit énormément de safran avant 1914, où la main d'œuvre coûtait peu cher encore en France. Ouais. Aujourd'hui, ce qui freine le développement du safran, c'est la main d'œuvre, c'est le coût de la main d'œuvre en France, puisqu'il faut énormément de main d'œuvre. Pour en revenir à la question que j'ai perdue.
Voilà. Justement, et vous produisez combien de... On peut pas aller en kilos ou en
non. Alors, non, en grammes. Nous, on est à 280 grammes. Notre objectif, c'est de faire un kilo. Et aujourd'hui, on n'en vit pas.
Hein, d'accord.
Ouais. Pas, 280 grammes, je suis trop feignant pour faire un produit voilà. En froid, mais ça fait pas grave.
Mais moi, j'apprends quelque chose. J'ignorais complètement qu'on cultivait du safran. Pour moi, c'était forcément les pays de méditerranéen. Donc, je vais y arriver.
Une terre bien drainée, en fait.
Il faut une terre bien drainée pour que la bulbe en soi ne pourrisse pas dans la terre.
Alors, on va peut-être se mettre un petit disque, et puis après on repartira sur le combat général, parce que là, on va croire, les auditeurs pourraient être tentés de croire, ah bah oui, lui, l'usine Seveso, c'est juste parce qu'elle est au bout de son jardin que ça le gêne. C'est peut-être pas forcément votre cas, Anne-Gaël.
Alors, je suis pas très loin non plus, mais c'est pour des raisons, je pense, plus générales, et parce qu'on en reparlera, mais c'est à côté d'une
forêt. Et rappelez qu'il y a
aussi
derrière ce qui se cache aussi, un combat global pour l'aménagement, on va dire, raisonné et raisonnable du territoire.
Et vous allez voir qu'en Fignon, on va dépénaliser la culture du cannabis. Arrêtez le safran, là. Sur 2 hectares, vous pourrez vivre largement là-dessus.
C'est pas vraiment François
Fillon
qui va
au Marine Le Pen, non?
Non plus.
Non, bon, voilà. Moi, je rêvais. Cultiver du safran. Allez, un petit dit, c'est parti.
Mmh. et c'est marre. On n'a plus rien dans les tripes. On encaisse et c'est marre. On n'a plus rien dans les tripes. On encaisse et c'est marre. On n'a plus rien dans les tripes.
Et voilà. Et
bien voilà. Voilà, bah, une programmation couillue. On sent que la droite revient, parce que c'est vrai que pendant 5 ans, on était dans le New Jazz.
Non, c'est la programmation couillue. Non, non. Et surtout,
vous étiez dans
là.
Le New Jazz. Ah, vous n'avez jamais quitté le New Jazz. Oui. Mais il se trouve que ce soir, votre créature, Tom, le mangeur de cassoulet froid, au-dessus des consoles, n'est pas là.
Balancez-le, pour que vous y êtes, là.
Et que du coup, comment dirais-je, il n'y a que mon bon Grovitch qui, lui, met de la musique couillue, c'est tout.
Et je sens qu'en 40, vous auriez eu beaucoup de succès. Je dis pas auprès de qui.
Quand je vois des conneries, c'est tout.
Ben, c'est ce qu'il disait le même en 40.
Ouais, ouais.
Allez, revenons à notre. Donc on dit le NU, c'est ça le
PLU,
voilà le. Et pourquoi on dit pas le NC, non constructible? Ce serait beaucoup plus simple pour comprendre les choses là.
Parce que en fait là actuellement les communes elles sont en train de mettre en place ces PLU pour réfléchir à une politique globale d'aménagement de leur territoire. Et si on reprend un peu les écrits du PLU du Pertre qui tend à protéger l'emblème du village, à savoir la forêt du Pertre, et ses bocages et la vue depuis l'église et le château, on s'en éloigne grandement avec ce projet.
Et puis on va revenir peut-être à la base, comment vous êtes atterri là en fait, justement dans ce fameux, vous disiez vous, ça fait 19 ans que vous y étiez, Angèle, c'est plus récent votre arrivée.
Oui, 2 ans.
2 ans.
Avec 1 an de rénovation. En fait, on cherchait une propriété, pour aider, une maison, ça avec un hectare.
Ça coûte moins cher qu'à Rennes, ça c'est sûr.
Oui, voilà, on n'avait pas les moyens.
Un hectare quand même.
Ouais, voilà, on voulait un hectare pour y mettre un cheval, et puis, pas forcément pléthore d'offres, surtout dans nos prix, et du coup, on est tombé sur cette maison, et voilà, coup de cœur, et puis, c'est engagé 1 an de réno, et très prenant, un projet qui vous prend.
Et donc, du coup, tout ça par un peu. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le problème qui nous préoccupe, à savoir que donc, du coup, on a ce terrain. Alors, moi, déjà, si on revient à cette vente-là, il n'y a pas de recours contre une vente comme ça, quand on voit un prix qui passe de,
en théorie,
c'est 6 000 euros et 10 700, il n'y a pas la préfecture qui peut, on ne peut pas faire un recours auprès de la préfecture pour contester la vente. Parce que là, il y a quand même c'est le frangin qui encaisse le pognon, quand même.
Ben en fait, c'est assez compliqué de trouver des chiffres officiels.
Mais le montant de la vente a dû être acté au moins au conseil municipal. Je veux dire, il peut pas acheter un terrain
c'est
sans
visible,
que ça soit publié.
Ben alors, l'accord donner les droits à Monsieur le Maire pour acheter ce terrain, ça, on l'a vu. Par contre, pour le reste, les montants.
C'est pas normal que les montants n'apparaissent pas. Bon, ça, c'est public, ça. C'est pas Jean-Loup.
C'est un marché public, tout simplement.
C'est un marché public, tout simplement.
Et quand c'est sous-estimé ou surestimé, censément, il y a.
On a l'air de les engueuler un peu.
Alors, l'argent, déjà, c'est l'argent public. Hein. Le terrain est acheté avec l'argent public.
Ah oui.
Donc, ça, on a un droit de regard sur
le montant,
bien sûr. Donc, aujourd'hui, on connaît ce tarif-là par l'intermédiaire. Officiellement, on n'a pas ce tarif-là en notre possession. Par contre, on le connaît par l'intermédiaire de l'exploitant, puisque lui, on lui a proposé ce tarif-là. Alors, est-ce qu'il y a des recours? Peut-être. On n'est pas juriste, nous, là-dessus. Nous, ce qu'on voit surtout, alors il y a le côté peut-être argent là, qui nous gêne, mais nous on voit surtout notre paysage, notre bocage qui va être
meurtri.
Voilà. On a aussi notre forêt qui est juste à côté. On a aussi la source de l'Oudon qui est sur ce terrain. On voit aussi ce côté-là. Donc il y a forcément l'argent public là qui nous embête plus que embêté, hein, où on s'interroge beaucoup
justement
sur cette transaction.
C'est parfois sur des détails qu'on arrive à faire tomber des gros projets. Quoi. Moi je comprends bien qu'effectivement la construction d'une usine au milieu d'un bocage jusque-là préservé. Donc on peut parler de votre élevage
de safran.
De safran.
Eh oui. Ça c'est l'aide de safran.
Il y a également des producteurs de lait, je crois, qui sont dans le coin qui se sont fait chier à se convertir en bio. On sait ce que ça veut dire, pas d'aide de l'État pendant
un petit peu quand même.
Non, pour la convertissure en bio, on roule pas sur l'or. Et au final, maintenant qu'ils sont bio, on leur dit ils vont avoir une usine toute pourrie à côté de chez eux.
Et qui remettrait en cause éventuellement
leur terroir bio. Et là, comment ça peut passer au conseil municipal? Alors, donc, c'est pour ça que Jean-Loup, c'est pas idiot d'avoir posé la question. 1500 habitants, ça fait combien d'élus, ça?
Bah, le maire et son frère. Grosso modo, quoi, deux.
Non, il faut un chiffre impair.
Et la belle-sœur.
C'est 12, non?
Ah là, c'est des cols, vous savez qu'on a...
Quand on vient chez les grillous, on prépare son dossier.
On a puni des invités pour moins que ça, faut le savoir. Faut le savoir quand même.
Je sais pas dans ce genre, ouais, c'est quoi, une dizaine
à peu près. Ouais. Comment dirais-je, au lieu d'être sur un site de petites filles, comment dirais-je. Allez donc vérifier nombre d'élus au conseil municipal de la commune du Pertre.
Voilà. On est de l'ordre
d'une dizaine, mais le nom exact, je ne connais pas. C'est une colle, je suis d'accord.
Mais alors, parlons de votre asso, la SPR, du coup, revenons à votre asso. Il n'y a pas que vous qui avez été concerné par ça. Vous avez décidé de constituer une asso. On remonte donc, les faits remontent à juin 2016. L'asso, elle s'est montée quand, du coup?
Il y a à peine un mois. Voilà, il y a un petit mois. En fait, le temps que ça se mette en place, c'est vrai que les premières réunions, c'était principalement les riverains, et puis le besoin de créer l'association pour nous représenter tous, et puis peut-être aussi pour rallier plus de monde, c'est manifesté, et donc du coup, on est parti sur le statut d'association. Et c'est vrai que de plus en plus de gens viennent s'associer à
bien.
Nous.
Alors moi j'ai une question idiote à vous poser encore une seconde. Qu'est-ce qui vous fait peur en fait? Il y a un projet précis? Il y a des rumeurs?
Alors le motif principal de cette demande de modification de zonage de la parcelle, donc pour la rendre constructible et tout de suite, en fait elle est motivée par le souhait, donc parce qu'il faut savoir qu'au Pertre il y a déjà une entreprise Céveso qui s'appelle Hydrachim.
On
en a une et son activité fonctionne très bien. Et ce qui est une très bonne nouvelle hein, pour l'emploi, mais il a besoin de s'agrandir. Sauf que il est à la sortie du bourg, enfin il est quand même plutôt proche du bourg, et il reste une parcelle effectivement constructible, mais c'est vrai que c'est très proche des habitations. Donc ça a été refusé sa demande de s'agrandir par cette parcelle là mais donc là, je pense que le souhait de la mairie était de conserver l'entreprise au sein de la commune, et ils ont cherché une solution qui s'est trouvée être
la parcelle
en question.
Alors cette fameuse entreprise, elle emploie combien de personnes actuellement?
Alors 70 personnes
sur le Pertre et 200 personnes en tout, puisque cette entreprise a d'autres sites ailleurs.
Donc voilà. Pour celles concernées.
C'est pas négligeable quelque part en termes d'emploi, quoi.
Au niveau de l'emploi et qu'une entreprise veut s'étendre là-dessus, nous on est tout à fait favorable. Mais aujourd'hui, il y a d'autres zones industrielles autour du Pertre. Il y a environ, je crois, 16 zones industrielles sur Vitré Communauté, qui comprend le Pertre, où il y a déjà des zones industrielles, dont une qui est à 4 km de l'endroit où ils veulent implanter cette usine Céveso. On en a une autre zone à 11 km. Donc nous, ce que l'on propose, c'est arrêtons de détruire encore des terres agricoles. Nous avons déjà des zones industrielles. Allons s'implanter dans ces zones industrielles qui sont en plus
demandeuses
et proches de la 4 voies. Est-ce qu'on pourra en parler aussi? Il y a aussi le trafic routier que ça va créer sur nos routes de campagne. Donc, on n'est pas contre l'emploi et le fait que les entreprises se développent. Au contraire.
Est-ce qu'il y a possibilité, effectivement, pour cette... Alors, parce que vous, ce que vous proposez, du coup, c'est plutôt que de s'agrandir dans la commune du Pertre, de quitter la commune du Pertre et d'aller s'installer 4 km à côté dans une zone industrielle qui existe déjà. Mais est-ce qu'il y a possibilité de se faire, là? Ou est-ce que effectivement, c'est possible?
Alors, a priori...
Alors, sur celle qui est juste à côté, donc il y a 39 hectares actuellement disponibles, mais on sait que c'est aussi ce qu'ils appellent un éco-parc. Donc, ils attendent des industries,
Éco-parc, écologie-parc, économie-parc.
Écologie. Donc, ils ne souhaitent pas des entreprises Céveso. On est bien d'accord. Donc, sur ce juste à 4 km. Par contre, il y a quand même 16 sites industriels sur la zone, enfin, sur Vitry Communauté. Il y a d'autres endroits pour pouvoir s'y installer.
Oui. Mais alors, la mairie, comme dit Jean-Loup, la mairie, effectivement, ça fait quand même 70 personnes, ça fait bosser le...
De pot direct.
Ça fait peut-être bosser pas mal le restaurateur du bourg. Vous avez un petit restaurant ouvrier dans le bourg qui doit bosser avec les chauffeurs qui viennent, etc., j'imagine. Le commerce doit vivre un petit peu aussi de cette, dans cette boîte-là, non?
Tout à fait. Je pense que ça fait partie du dynamisme du bourg. Ça, c'est indéniable. Même si je pense qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui sont liées. On a deux coiffeurs. Je pense que voilà, c'est
plutôt... deux coiffeurs.
Oui, on a deux coiffeurs.
Et il y a beaucoup de filles apparemment dans le village. Là.
Peut-être.
Ah, mais 500, je divise par deux. Ça va aller, mais 800, je dirais entre 800 et 900 filles.
Oui, faut compter les veuves aussi. Là.
Bah, je vous dis pour ça, 800 et 900 sur 1500. Alors, donc, oui, vous avez 15 élus d'ailleurs. Tiens, voilà. Monsieur Grovitch, vous a donné
merci de l'information.
15 élus. Alors, comment est-ce que vous les connaissez justement, ces 15 élus là? Est-ce qu'il y a des liens avec eux? Parce que je pense que donc là, l'asso s'est créé il y a un mois juste. Les objectifs de l'asso, ça va être quoi du coup?
Eh ben, on veut préserver le cadre rural, le cadre de vie auquel on tient, donc du coup, ça englobe aussi la façon dont on vit. Et ça englobe aussi, du coup, les parties environnement. Mais pas que, voilà. C'est vraiment, c'est le dynamisme du bourg, c'est tout ça qu'on veut conserver. Mais aussi, cette forêt, ces ruisseaux, ces campagnes, ces agriculteurs. Voilà, on veut conserver tout ça.
Et encore une question idiote, qu'est-ce qui fait le charme, justement? Vous parliez de bocage, moi je croyais que ça avait disparu dans les années 60. Il y en a encore, apparemment, dans votre...
Alors, en plus, le bocage est conservé, mais il n'y a pas eu de remembrement ou pertre, ce qui fait qu'on a encore des haies, on a encore nos ruisseaux, on a beaucoup de chemins pédestres sur le pertre. Le pertre est quand même une commune où les pertrais se sont quand même
impliqués, mobilisés.
Ils continuent à se mobiliser, à entretenir ces chemins, à entretenir le bocage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore une commune qui est préservée du bétonnage, même si on a quand même au sud la LGV qui nous est arrivée et au nord la THT.
Mais vous êtes bien desservis.
On est
quelque part. Vous avez tous les avantages. Voilà. La campagne, la douane, pas très loin, l'autoroute,
les usines, l'emploi, et vous venez râler.
Et deux coiffeurs, quand même.
Et deux coiffeurs.
Donc aujourd'hui, on dit stop à plus de destruction de nos terres agricoles.
On s'écoute un petit mix de la programmation.
Jean-Louis, il est peut-être temps. Bah oui, dernier.
Encore
dernier. Jean-Louis, bah oui, bah non, il est dernier.
Il devrait en mettre un ou deux.
Allez, un truc avec un peu plus de mélodie.
Oh mon Dieu, on va se chier pendant combien de temps?
Un peu de gauche dans la musique, ça fait pas.
I'll take
Voilà, alors que je me renseignais sur le safran qui vous passionne, Jean-Loup, j'aimerais qu'on continue à structurer un petit peu notre entretien en disant qu'effectivement, vous n'êtes quand même pas venu. Alors effectivement, question bingo sur le nombre d'élus, vous ne saviez pas, ça on note. Par contre, vous êtes venu quand même avec un dossier que j'ai réussi à imprimer grâce à ma super imprimante. Merci SOS Ordi 35.
Ouais, merci la Corée du Sud.
Non, mais oui, c'est grand, c'est Corée du Sud, ça.
Bah oui, il y a des fortes chances. Et c'est donc, pas en Chine quand même.
Et donc, du coup, vous avez quand même publié un document. C'est vous qui avez publié ce document-là.
Ah non, ça c'est la mairie.
Ça c'est la mairie.
Ouais.
Alors pourquoi vous me l'avez envoyé ? Je croyais que ça c'était votre projet et justement, vous Christophe, vous avez souligné des éléments de ce discours. Vous les avez soulignés parce que vous trouvez qu'effectivement ils ne coïncident pas avec les projets. C'est-à-dire voilà. Que le projet du CINCEVESO rentre en contradiction totale avec ses orientations générales en termes de préservation et de valorisation des paysages et de l'environnement. C'est bien ça ?
Alors, exactement. Non, mais je temporise tant que vous trouviez.
C'est une interro.
Donc, dans ce document, donc c'est un document de la mairie, hein, on peut voir les objectifs de la mairie. Hein.
Ouais.
Donc, un, donc c'est la préservation de la forêt du Pertre, couvrant un tiers du territoire de la commune. Donc, la forêt du Pertre est un élément identitaire, c'est marqué, du paysage pertrais. Sa préservation s'impose, d'autant plus qu'elle est recensée comme nief de type 2, abritant certaines espèces protégées. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut voir dans ce document. Donc, on voit déjà un petit peu l'incohérence entre... de mettre un site industriel juste à côté de cette forêt. Hein. Donc en plus, cette forêt, on sait aussi, elle est classée au niveau risque incendie, 3 sur 4. Hein.
Ouais.
Donc ça, c'est une deuxième raison pour ne pas mettre une zone industrielle et de plus implanter une usine type Céveso à côté d'une forêt où elle est classée risque incendie.
Alors du coup, votre association qui a été fondée il y a un mois, c'est bien ça, donc ouais. Toute jeune association, vous avez réuni combien de personnes déjà alors, du coup?
Une vingtaine.
Ouais.
Ah, comment, officiel, c'est normal.
Hein. Adhérent,
non, mais à l'échelle du Pertre, voilà. C'est normal. On est quand même, on parle, comme on disait tout à l'heure,
2500 personnes,
etc. Donc, ça va être quoi le travail de votre association? Vous allez essayer de peser de quelle manière?
Ben là, on a commencé par faire des tracts, informant la population de ce qui se passait. Mmh. Parce que, à notre grande surprise, parce que nous, on est effectivement à quelques mètres du projet, donc les panneaux, on les a vus. Mais c'est des petits panneaux, hein, c'est format A4. Hein, donc,
on parle de l'enquête publique.
Voilà.
Ouais, l'enquête d'utilité publique. Elle a déjà eu lieu, ça y est, c'est bouclé, terminé, au revoir.
Elle s'est terminée le 5 décembre, lundi dernier.
Ouais. Donc,
Alors, c'est durant cette enquête d'utilité publique qu'on peut émettre des réserves. Est-ce que vous avez émis des réserves quant à vous?
Ah oui, de grandes.
On a émis des réserves et d'ailleurs, la personne qui s'occupe, la commissaire qui s'occupe de l'enquête a rarement vu autant de réserves pour un dossier.
D'accord. Ouais. Alors, ça fonctionne comment l'enquête d'utilité publique? Donc, du coup, vous émettez des réserves. Est-ce qu'on vous dit, c'est bien, vous avez émis des réserves et l'usine, les travaux vont commencer demain, ou ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer?
Oh, ça met du temps, normalement.
Là, c'est ce qu'on redoute. Hein, c'est que, en nous disant, oui, vous avez raison, mais ça va continuer quand même. Ce que vous dites, on l'entend bien, mais... le projet va quand même se faire. Donc ça, c'est ce que l'on redoute avant tout.
On est un peu dans la dictature de l'emploi. Je me rappelle, il y a un an ou deux, nous avions reçu le Peuple des Dunes, une association qui se battait contre l'exploitation d'une dune au large de Tréguier, Perros, tout ça. Et toutes les communes ont émis des avis défavorables. Comment les marins pêcheurs sont contre, les plaisanciers sont contre. Et Macron, alors qu'il n'était pas encore traître et qu'il était encore ministre, a signé, un papier en disant « si, ça va quand même préserver l'emploi ». Est-ce que vous
attendez, êtes pas aussi un petit peu... je rappelle, c'est 13. C'est pas 200 emplois, ouais, c'est 13. 13.
Et là, comment dirais-je, est-ce que vous n'êtes pas aussi quelque part victime et sacrifié sur l'autel du tout emploi, tant pis pour les conséquences?
Alors, il y a l'emploi, il y a sûrement parce que le maire souhaite préserver l'emploi, mais il y a aussi la guerre de clochers, parce que l'emploi, nous, on n'y est pas contre, mais que l'emploi soit au Pertre ou à 4 km à côté, l'emploi sera le même. Donc, on va pas supprimer d'emploi. Donc, c'est plus une guerre de clochers où le maire souhaite avoir l'emploi qui reste au Pertre.
Oui, puis, Puis ça veut dire des taxes professionnelles, c'est-à-dire des revenus aussi pour la commune directement. L'implantation d'une, je fais un peu l'avocat du diable.
Oui, ça représente probablement une somme, mais je pense qu'on peut développer aussi d'autres activités au sein du Pertre, parce qu'il reste des zones constructibles pour des entreprises, mais on peut faire le choix aussi d'implanter des entreprises qui soient, enfin en tout cas de développer, garder celles qu'on a déjà bien sûr, historiquement ils se sont développés là, voilà, mais peut-être proposer à des entreprises tertiaires de s'implanter. Il y en a une à 11 km qui se porte très très bien, c'est Webhelp. Donc, pourquoi pas partir dans ce sens-là ?
Alors, vous avez distribué des tracts. Quels sont les types d'actions que vous avez envisagé de privilégier aussi ? Quel type d'action, à votre avis, pourrait permettre de faire en sorte que le projet ne voit pas le jour ?
Là, en cours, on peut parler de notre pétition. Donc, actuellement, on mène une campagne de pétition pour... on informe et en même temps, on pousse notre coup de gueule. Et pour dire qu'on n'est pas d'accord et que si vous n'êtes pas d'accord, signez-la. Parce que on pense que ça se cantonne pas que au Pertre. Parce que je pense que c'est symboliquement, on n'a pas forcément envie, pour des gens qui vivent dans des milieux ruraux, de voir tout être saccagé.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un discours global ? Est-ce que vous avez essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres associations ? Parce que finalement, c'est le même problème partout. C'est Notre-Dame-des-Landes, c'est le Habur, par exemple, l'enfouissement des déchets nucléaires. C'était le barrage de Sivens. C'est tout ça qui est, on va vers effectivement. Et puis, de manière plus générale, je crois voir quand même pas mal un espèce d'émiettement de la zone agricole. Faut quand même pas oublier qu'on vit de ce que l'on produit, de ce que l'on mange. Exactement. Et remplacer toutes les terres agricoles par du béton, des usines ou parfois tout bêtement des centres commerciaux à la con, effectivement ça procède d'un risque à terme d'un affaiblissement de nos capacités à nous nourrir, tout simplement. Est-ce que vous avez rejoint d'autres assos ?
Il y a des emplacements qui sont disponibles.
Jean-Louis, le terme de la destruction en termes de terres agricoles est impressionnant.
Oui, mais on achètera du blé aux Chinois. Ça coûtera moins cher.
C'est ça. Alors, vous disiez Angèle ou Christophe?
Oui, en termes d'autres associations. Donc, on s'est rapproché de Eau et Rivière,
qui
nous soutiennent. Donc, on a eu contact aussi avec la Chambre d'agriculture, quand même, pour savoir un petit peu ce que eux en pensaient. Donc, ils ont d'ailleurs émis des réserves sur ce dossier, sur ce projet. On a aussi, au niveau des associations...
Le syndicat du bassin de Loudon, qui défend... donc un ruisseau qui s'appelle un ruisseau,
c'est un ruisseau
qui est classé, et qui lui est par contre là on parle de territoire puisque il est sur le Pertre et il est aussi en Mayenne, donc
et un petit aéroport international, ça vous intéresse pas là, il y a une place à prendre, en plus il y a la douane à côté, les quatre voies, la LGV bientôt là, ça pourrait être éventuellement intéressant là,
Allez, un petit Dix et puis on va continuer cet entretien. Voilà, nous parlions de d'artifice. Alors, on appelle ça l'artifice. Comment dire, un terrain artificiel. Comment vous diriez ça, l'artifice. Voilà, c'est-à-dire que.
L'artifice. Bétonnage.
Ouais, bah c'est du bétonnage.
La urbanisation.
Et du coup, bon Jean-Loup, parce que il s'agit quand même de là d'un projet qui va, de façon globalement déprécier l'ensemble du terroir. Ça va déprécier effectivement les paysans qui faisaient du bio, le safran. J'imagine votre safran avec comment dirais-je une enseigne tête de mort au-dessus de votre production. C'est peut-être pas ça qui va aider
voilà,
à la vente.
L'image d'une usine Céveso à côté d'un champ de safran bio, c'est pas ce qu'on souhaitait le plus.
Bah c'est clair. Et plus globalement, est-ce qu'on n'a pas effectivement, bah vous l'avez senti, vous aviez fait le choix d'aller à la campagne, et puis pouf, à la campagne, vous retrouvez avec toutes les merdes en fait.
Bah voilà, hein, c'est bien résumé.
Comment vous le ressentez, vous, du coup, justement, on va dire, comment on appelle ça, des néo-ruraux, en fait, parce que Jean-Loup et moi, pour des raisons simples, j'ai pas le permis, donc si je suis pas en ville, je suis mort, mais Jean-Loup, vous avez fait le choix de la ville aussi.
Un urbain à 100%, et il y a longtemps, j'ai cru que les haricots verts, ça poussait dans des boîtes, que les agriculteurs n'avaient qu'à récolter.
J'ai quand même réussi à l'emmener une fois à l'écomusée, vous savez, cette ferme idéale qu'il y a de l'autre côté de la rocade.
J'ai eu peur.
J'ai eu peur. Qu'il était un peu perdu. Alors comment vous vivez ça effectivement cette
Alors on le vit mal parce que déjà notre projet de produire du safran, donc on a mis ça fait 3 ans hein, qu'on essaie
c'est
de développer.
D'une vie.
C'est un projet d'une vie, mais ça fait surtout 3 ans qu'on y travaille pour développer cette agriculture. Et aujourd'hui, voilà qu'on nous apprend qu'une usine va se construire juste à côté. Donc c'est quand même 3 ans d'efforts qui vont être anéantis. Donc on le vit très mal.
Et mais il y a d'autres agriculteurs qui font du bio, si j'ai bien compris. Est-ce que vous êtes associés? On est plus forts qu'on est plus nombreux, justement pour défendre les intérêts communs et aussi particuliers.
Alors au niveau de l'association, on regroupe quasiment 100% des riverains qui sont autour de cette zone industrielle. Donc certains qui sont en agriculture biologique, d'autres qui sont des anciens agriculteurs retraités qui sont aussi dans notre association et des agriculteurs qui sont conventionnels mais qui ont quand même rejoint notre combat parce qu'ils trouvent que c'est complètement anormal de continuer à détruire des terres agricoles.
Alors, Anne-Gaëlle, vous me disiez tout à l'heure en antenne que vous avez été voir le patron de l'entreprise. Alors du coup, comment ça s'est passé?
Alors moi, je suis pas allée personnellement, mais bon, je vais pouvoir parler quand même de ce qui a été
cet
dit.
Cet entretien.
Donc ce qu'il en sort en tout cas, c'est que, grande surprise, le directeur, enfin le président, n'a pas l'intention. Pour des choix de budget, parce que en fait ça coûte très cher de créer une création pure et dure, c'est beaucoup moins cher de faire une extension, et c'était son souhait premier. Donc en ayant un autre site à Plélan-le-Grand, son choix était, je pense, judicieux, et il va agrandir le site de Plélan-le-Grand.
Et donc, il va pas agrandir le site chez vous?
Non.
Donc, vous avez pratiquement déjà gagné, alors, du coup?
Et non.
Non.
Non, c'est ça.
Non, mais si on a installé, je sais pas moi, une cinquantaine d'éoliennes industrielles de 100 mètres de haut, ça vous irait?
Ah bah l'éolienne, c'est le mois d'avril.
C'est la question qui tue.
Non, mais par contre,
on a pas laissé les réponses.
Je croyais qu'on avait gagné. Il nous dit qu'ils ont gagné, puis alors, en fait non. Alors
c'est
vous
ça.
Après vous parlez
pourquoi
d'autres choses, bonjour.
Alors bah. Oui, on va rester sur. On reviendra sur les éoliennes.
Oui.
Après.
On reviendra sur les éoliennes. Calmez-vous.
Il a l'extension de ce qu'il souhaitait faire. Alors déjà. Moi, je tiens quand même à remercier cet industriel qui nous a reçus, déjà, qui a ouvert sa porte, où le débat a eu lieu, et ça s'est très très bien passé, l'entretien. Il est resté sur ses positions, on est resté sur les nôtres, mais il y a eu débat, et ça s'est très très bien passé. Alors qu'on avait vu le maire juste avant, où là, il y a eu aucun débat, où il y a eu plutôt le clash, et on n'a pas pu discuter avec le maire. Donc pour en revenir, le terrain, malgré tout, l'industriel est quand même acquéreur de ce terrain. Aujourd'hui, il nous dit qu'il n'a pas de projet à l'instant T sur ce terrain, mais par contre, il est quand même acquéreur. Donc c'est du moyen terme.
Et il peut vous enfler.
En plus, il n'est pas obligé de nous dire la vérité à l'instant. Hein.
Oui.
Et petit détail, ce serait a priori une entreprise qui ne serait pas Céveso. Donc du coup, nous, ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'ils souhaitent se développer, je le comprends tout à fait, mais du coup, je comprends pas, le but premier, c'est qu'on le comprend bien, une Céveso, il faut pas que ce soit près des habitations. Bon, il y a d'autres sites, mais bon, on veut le garder dans le village, je comprends. Mais si c'est pour implanter une entreprise qui est lambda, et qui pollue pas, ou qui n'est, en tout cas, qui n'est pas classée Céveso, il y a d'autres
pourquoi
sites.
Pourquoi l'installer là?
Voilà, et puis même au Pertre, il reste des emplacements. Ah. Donc, là, ça n'a
pas... Ce n'est pas clair.
Oui, et puis en tout cas, il y a plus
de... Et vous
avez
peut-être reçu à l'américaine. Moi, comment dirais-je, je suis toujours assez surpris. Vous savez, en France, on a toujours la culture du clash, un peu comme avec le maire, comme ça s'est passé. Puis en plus, moi, je dirais qu'il a quand même un peu le cul sale, parce que si, effectivement, faudra que vous vérifiez le coût d'acquisition, parce qu'à mon avis, c'est public, hein. On a dit que, on a parlé de 17 500, mais il n'y a rien d'officiel. Donc il faudrait quand même, est-ce que c'est officiel qu'il a acheté 17 500 ou ça ne l'est pas? C'est ça la question.
Alors, c'est l'information vient de l'exploitant agricole, c'est le prix qu'on lui a proposé. Hein. Donc, par contre, on n'a pas d'écrit actuellement, puisque c'est que ça s'est fait uniquement oralement.
C'est-à-dire que l'exploitant agricole qui louait ce terrain-là, s'il voulait s'en porter acquéreur, il aurait fallu qu'il aligne 17 500 par exact. Hectare.
Exactement.
Par hectare. Il y a 2 hectares 38, c'est ça, 37.
D'accord. Donc,
donc, il fallait qu'il débourse une petite somme de 40 ou 50 euros.
Mais moi, je crois que,
euros.
Comment effectivement, le nœud du problème, c'est de savoir à combien la mairie a acheté. Et donc, mais l'usine, est-ce qu'elle l'a racheté, le terrain, déjà, c'est fait?
Pas encore. L'usine attend. Alors, l'usine attend que, justement, que ce terrain soit classé en 1 AEA, c'est-à-dire que le terrain devienne constructible. Et à partir du moment où le terrain deviendra constructible, l'entreprise sera acquéreur de ce terrain.
Mais s'il n'est pas constructible... Je peux enterrer des trucs dedans, en fait.
Ah oui, c'est pas con.
Si, je peux. Je sais pas.
Si, t'as pas tort. Il dit souvent des bêtises, mais il n'a pas tort.
Ah, je comprends pas, mais voilà, oui.
On construit pas, mais on va faire un gros trou.
On construit juste une petite cabane au-dessus, et puis après, plein de gros trous, et puis façon taupe.
Puis après, on peut faire une petite butte avec des fleurs.
Façon bure, quoi. Vous savez, là où on veut enterrer les déchets nucléaires.
Oui, oui, oui. Voilà, j'espère pas.
Oui, voilà. On n'espère pas. Surtout que, bon, il y a quand même tout un réseau d'eau qui passe par là. Donc, ce serait un petit peu dangereux.
Et j'ironisais tout à l'heure sur l'éolien industriel. Il y a eu pas mal de magouilles aussi à Zivola. Le nombre de bleds où c'est le beau-frère... Hop. Qui vendait ses terrains à prix d'or, justement, avec une rente illimitée, et qui rapportait beaucoup plus que le blé qu'il pouvait produire. Ça vous dérangerait ou pas, ce genre de projet?
C'est pour ça que nous, on a eu déjà le TGV, la THT.
La douane!
La douane!
La DHT, c'est quoi, ça? La THT! Ah oui, l'espèce de grande ligne,
qui est arrivée chez nous aussi. Si on pouvait éviter les éoliennes aussi.
Non, mais bon, moi,
Alors, l'éolienne, c'est plutôt une autre région. Par contre, effectivement, on en revient à ce débat. Pour être heureux, finalement, il faut quand même presque plus être en ville qu'à la campagne.
C'est vrai qu'à Rennes, on n'a pas de Céveso. Hein.
Ouais, pas de Céveso, pas d'éolienne.
Ah, voilà, on est tranquille.
On est à la fête foraine, par contre. Mais même Jean-Loup est en train de signer une pétition pour que la fête foraine soit déplacée à la zone.
Justement, chez vous. Et en fait, le terrain que le maire, que la mairie a préempté, peut-être que ça servira pour la fête foraine de Rennes. Vous vous rendez compte? Donc, je suis pas sûr que ça me dise.
Allez, un petit X à la programmation à Roger, je crois.
Et non, perdu. Ah,
c'est qui?
Bah, d'après vous.
C'est vous?
C'est moi.
Oui, bah, chacun son tour.
Ah.
Et là, tout de suite, c'est à moi, en fait. Et c'est parti.
You got
De François Fillon alors qu'il n'est même pas élu. Mais leur tourne, mon bon Jean-Loup. Et comment dirais-je, avant qu'on finisse peut-être la semaine des Green News, comment il serait peut-être temps de faire un rappel sur la pétition de... c'est quoi le nom de l'assaut, mon bon Jean-Loup ?
ASPTT.
La SPR,
bah oui,
l'association pour la sauvegarde du paysage rural. Donc, est-ce que vous nous en touchez deux mots, donc, Anne-Gaël ?
De l'association ?
Ouais, non, pas de l'asso, mais de la pétition.
Alors, la pétition, donc, c'est Touche pas à mon pré.
Ouais.
Donc, on a réuni, donc, entre papier et ligne, parce qu'il est en ligne, on a réuni un peu plus de 300 signatures en 15 jours, hein. Hein, donc je resitue quand même, 15 jours c'est bien. Et donc du coup, bah, il faut, enfin, si on vous a convaincu ce soir, n'hésitez pas à aller signer.
On trouvera tous les liens là. Mais ah, je vais. Est-ce que la pétition c'est pas un petit peu ringard ? Est-ce qu'il vaut peut-être désolé, mais envoyer en
vous
fait.
Vous estimez quoi, vous, directement s'immole par le feu devant la boulangerie
ou qu'il fasse grève de l'hygiène pendant un an ou deux éventuellement. Là,
ce chéri va être sympa pour les voisins.
Non, mais envoyer carrément des mails à la mairie. Ça, c'est on ignore souvent on est peu au Minitel, etc. Et c'est vrai que on peut faire une pétition que la mairie va casser dans un truc. Par contre, ils reçoivent tous les jours des pétitions, enfin une lettre type.
Bah, on disait la pétition, c'est pas non, bien. Vous voulez en faire plusieurs vous.
Non, mais une lettre type cas qui engorge leur ordinateur de la municipalité, ça peut être une solution aussi pour éveiller et faire chier entre guillemets, parce que le but.
Pourquoi pas. Alors, dans un premier temps, l'enquête publique s'est arrêtée le 5 décembre, donc on s'est d'abord concentré sur l'enquête publique pour savoir tout ce que l'on pouvait apporter à cette enquête publique. Donc ça a été notre premier travail de l'association, c'est-à-dire déjà d'informer la population et d'apporter tous les éléments que l'on a pu trouver à cette enquête publique pour apporter un petit peu de l'eau à notre moulin. Donc ça a été notre travail de ça fait un mois qu'elle a créé l'association, donc ça a été notre premier travail. Donc l'enquête publique aujourd'hui est terminée depuis le 5 décembre, donc on attend le résultat. Donc maintenant on va continuer nos actions, bien sûr. Donc ça, c'est une idée d'envoyer.
Sachant que ce susdit terrain n'est toujours pas vendu, donc là maintenant il a la propriété de la mairie.
C'est ça.
Qui peut être intéressant de voir quand même combien il a été vendu, combien il a été acheté par la mairie. Et peut-être de voir auprès de la préfecture s'il n'existe pas des... Ça peut toujours être intéressant, parce qu'un préfet, on l'oublie un peu, mais c'est quand même un peu un super maire. C'est celui qui est là pour vérifier que les maires n'abusent pas de leurs droits. Hein. Il y a Monsieur Ménard, d'ailleurs, il est tout le temps à la préfecture de son département pourri, là. Là où, effectivement, vous savez que... Comment là, il veut mettre... Ah, la dernière nouvelle de Ménard, c'était de collecter l'ADN des chiens pour coller des amendes pour les crottes de chiens à Béziers. Vous n'en êtes pas encore là, aux pertes, mais méfiez-vous si vous faites trop chier le maire.
150 euros l'analyse ADN, ça va coûter cher.
L'amende, il a intérêt à se rattraper sur l'amende. Mais bref, effectivement, peut-être qu'il y a, vous êtes loin d'être perdu. Je pense qu'effectivement, il y a quand même des leviers sur lesquels vous pourriez jouer. Est-ce que vous avez, je sais pas, une assistance juridique? Je crois qu'à votre niveau, il faudrait pratiquement une assistance juridique pour voir comment,
On a commencé à chercher un petit peu dans ce sens-là, mais ça reste voilà. Pour l'instant, comme disait Christophe, on s'est vraiment concentré sur trouver un grand nombre d'éléments pour
toutes les incohérences qu'il y avait dans
c'est
le
ça,
dossier.
Voilà.
On a relevé toutes les incohérences. Ça, c'est notre premier travail. Ça qui a quand même duré un mois. Il y a quand même pas mal d'incohérences dans ce dossier. Donc d'où il y a déjà le prix du terrain, c'est une première incohérence. Il y a le lieu. juste à côté d'une autre zone industrielle.
Informer les gens.
Il y a aussi le fait d'informer les gens, puisque même les Pertrais n'étaient, peu de personnes connaissaient ce projet. Hormis les quelques personnes.
Et même ces vaisseaux, ils savent pas qu'ils sont à côté d'une saloperie. Alors, c'est quoi, justement, le danger qui est susceptible d'engendrer cette entreprise? Si elle brûle, c'est quoi chez vous?
Alors, c'est une usine qui fabrique des détergents.
Ah, c'est pas mal.
Voilà. Alors, ils stockent une quantité importante de produits, de détergents qui sont et explosifs et risque d'incendie et peuvent aussi, s'il y a des infiltrations dans le sol, polluer le sol. Hein, donc il y a déjà eu, hélas, quelques cas déjà au Pertre de pollution. Même si l'industriel est, je pense qu'il
est désolé.
Je
suis désolé.
Moi, il est désolé.
Il est désolé. Je suis désolé. C'est ce que disait le président de BP après la grande pollution sur Deepwater, vous savez, espèce de grosse station de pétrole. Il a dit, je suis désolé.
Bah, il présente ses excuses. Voilà, c'est bien.
Ça fait une belle jambe au bigorneau.
Donc ouais, vous avez coupé Christophe.
Donc alors moi c'est ce qu'on a vu cet industriel. On sait aussi que le risque zéro n'existe pas et que le risque de pollution peut nous arriver. Et si demain cette entreprise s'installe là où elle est, le risque d'avoir des infiltrations dans le sol ou d'un risque d'incendie avec la forêt ou autre, une usine Seveso, c'est pas zéro risque. C'est pour ça aussi qu'on classe ces entreprises Seveso. Mmh.
Alors justement, parce que même s'il n'étend pas son exploitation sur le terrain qu'il envisage d'acheter, ça peut être, comme le disait Jean-Loup, alors peut-être pas dans le sous-sol, mais ça peut être aussi une zone de stockage avec des fûts qui peuvent fuir, et j'imagine la tête de votre safran face à des fuites de détergent.
Au lieu d'être rouge, il sera
la
bleu.
Qualité du safran risque de s'en
repartir
un petit peu, d'en pâtir un
peu. Plus goûteux, vous créé un safran unique au monde, là.
Ouais, mais bon.
C'est optimiste.
Eh bien, écoutez, on vous remercie. L'heure tourne, malheureusement. Il est déjà 21h45.
Si on est mercredi.
Presque plus tard, si on est le dimanche, il sera aux alentours de 16h45, puisque l'émission sera rediffusée. Vous retrouverez tous les liens concernant l'association ASPR sur le blog des Grignoux, voilà, tout de suite. Et elle sera podcastible à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'en clair, eh bien, on pourra la réécouter presque comme si on était en direct. C'est pas merveilleux?
Et avant de conclure, est-ce que vous avez d'autres arguments qui me pousseraient à sortir de la rocade
pour
et aller vous
soutien,
voir, là. En fait? Il y a une forêt, il y a un bocage apparemment qui est resté
des
intact.
Champignons.
Des champignons, ça commence à être un peu tard en saison.
C'est ce que disait Coluche sur les champignons, je ne le savais pas, mais j'ai lu il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Les champignons sont toujours bons au moins une fois.
Donc il y a deux coiffeurs, mais il y a des bistrots,
il y a aussi deux bistrots, mais il y a aussi pour les sportifs, il y a des chemins pédestres où on peut faire VTT, on peut il y a beaucoup de randonnées à cheval, il y a
du sport, Jean-Loup, en fait.
Du sport.
Là vous êtes en train de parler à monsieur.
Marche de la Bretagne, c'est ça?
Vous êtes en train de parler à monsieur qui quitte son appartement que quand sa chérie le contraint avec
aller faire les courses à Carrefour ou au centre
urbain. Zone éminemment rurale et champêtre, vous imaginez bien.
On n'imagine pas le nombre de randonneurs que l'on retrouve sur nos chemins pédestres l'été. On voit pas Jean-Loup. Eh ben, on l'invite Jean-Loup à venir.
Jamais au grand jamais. Sauf s'il s'est perdu que sa voiture est tombée en panne.
Rando découverte.
Oui, c'est des vrais randonneurs ou c'est l'équivalent des étangs à pignées chez nous? Vous savez pas ce qui se passe aux étangs de pignées.
Non.
Il se passe des choses. Non, mais ça peut être une forêt, particulière.
Allez, un petit exemple de programmation à qui cette fois-ci?
Et eh ben le suivant c'est Jean-Loup.
Bah oui. Et là
encore.
Vous avez.
Mais c'est toujours Jean-Loup quand il est dernier, il passe tout le temps.
Dernier, ouais, en arrivant en vous voyant, Roger, je suis dernier. Donc du coup vous êtes premier, mais là je suis dernier, c'est mon tour. Avec un petit blanc. 45 tours.
C'est votre clé.
It's the eyes that see.
Et voilà, this is the time, comme diraient les Anglais. Comment on dit this is the time?
C'est pas tout
en Mayenne,
à fait le temps.
En Mayenne ou dans les marges, en fait, en galop.
On dit à tâteau.
À tantôt.
On dit à tantôt. Et avant de vous dire à tantôt, est-ce que vous rappelez du chanteur, de Caméra Silence?
Oui, je connais l'histoire.
Vous êtes au courant de cette histoire?
Oui, qu'il a fait un braquage.
Fait un braquage en 1988. Et un super braquage. Alors que ce monsieur, Caméra Silence, dans les années 80, c'était le chanteur d'un groupe alternatif.
Sulfureux un petit peu.
Alors c'est la région de Toulouse. Alors c'est vrai qu'à Toulouse, on a le sang chaud. Et avec ses amis, ils ont monté un braquage. Alors ses amis, c'était absolument pas des professionnels. Il n'y en avait qu'un qui était professionnel. Un ancien de l'armée basque, un truc comme ça, c'était le seul professionnel. Et hormis ce garçon, donc de Caméra Silence, on connaissait ce groupe,
qu'on passait
d'ailleurs chez les Grignoux dans le temps. Oh. J'ai découvert cet article, il y a peu de temps, la semaine dernière. Et en fait, ce braquage a été une réussite et c'était totalement stupéfiant parce que ça a été carrément un braquage professionnel. Pas de coup de feu, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça à l'ancienne, ils ont été chopés. développer des gens chez eux, ils ont pris le contrôle de, des codes, ils ont récupéré le pognon, comment dirais-je, dans le coffre, etc. Et ils sont partis dans la nature. Et à l'origine de ce braquage, il n'y avait que des bras cassés, pas mal d'alternatifs, bon, etc.
Des piniclés, ouais.
Dont deux ou trois, d'ailleurs, sont morts du sida. Et c'est un petit peu ça, d'ailleurs, qui avait un peu motivé leur geste, à savoir que, bah, perdu pour perdu, bah, ma foi, on va se lancer dans l'aventure, on va faire un dernier gros coup, on va faire un seul, et d'ailleurs, c'est même leur premier gros coup, d'ailleurs, ce qui a un peu stupéfié les policiers, qui ont activé leur réseau, puis ils sont tombés sur rien, parce que c'était pas dans le réseau du gros banditisme qu'il fallait taper. Et au final, ils vont finir par les choper, les uns après les autres, ils vont se faire choper. Certains mourront avant de se faire choper. Le chanteur même de Caméra Silence est également malade du sida. Et au bout de 28 ans de cavale, eh ben, il est parti en Amérique, en Espagne, lui, par
contre. En Espagne.
Et au bout de 28 ans de cavale, il s'est rendu à la police et il va être jugé. Sauf que, bah, effectivement, la justice est un peu emmerdée, parce que la justice a particulièrement merdé pour traiter ce dossier-là atypique. Il y a eu plusieurs juges qui se sont succédés, etc. Et au final, les rares qui ont été arrêtés ont été, on va pas dire blanchis, mais élargis au nom du fait qu'effectivement, entre-temps, bah, soit ils étaient morts, soit ils avaient carrément changé de vie. Et c'est ce qui risque d'arriver, tant mieux, c'est ce que tout le mal qu'on peut lui souhaiter au chanteur de Caméra Silence lorsqu'il paraîtra devant ses juges, à savoir qu'effectivement, bah, 28 ans après, c'est un tout à fait autre homme qui est toujours en suspens. Il a toujours cette espèce de couperet de maladie sur le coin du bec. Et voilà, ça fait drôle de voir un petit peu comment, eh bien, des gens dont on passait les morceaux à une époque alternative, comment effectivement ça
évolue. Ils ont mal tourné.
Ah ouais, enfin, espérons qu'effectivement la justice soit clémente, il l'aurait pas volé.
Et devinez quel morceau va se passer ?
Ah non, pas Caméra Silence, parce que c'est ma programmation.
Ah bah tant pis pour vous, non, c'est non, parti, cool, Caméra Silence.
Non, ça va pas pouvoir passer, parce qu'en fait, voilà. on est à Canal B, et
c'est la programmation,
en fait, voilà,
à Roger.
Il fallait réussir à récupérer le morceau, ce qui n'est pas possible avec
voilà.
La super.
Et pourquoi c'est pas possible ?
Eh ben c'est tant mieux, parce qu'on m'aurait chanté ma programmation. On s'écoute quoi, du coup ?
Eh ben du coup, on s'écoute Drunk Mums.
Voilà.
Et vraiment, on l'écoutera la semaine prochaine.
Maman alcoolique. C'est parti, tiens, un morceau, je vous dédicace. C'est parti.
Roger, vous n'avez pas fait la politique, parce que voilà, l'hymne national, c'est le mien maintenant. Voilà, le drapeau.
Wake up from a coma, I'm deep in, beneath some bed of my own. Gas from the hours of drinking, and gathering the things that I own or I've owned. These girls that should keep us up all night, they're robbing us of the day. We're nocturnal in daylight, our eyes are fading away. Through the night and the day, because we're all stuck.